Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay-Lamarche. Aujourd'hui, 17 juillet, eh bien, on s'en va dans la grande noirceur. On pourra en reparler d'ailleurs avec notre invité pour savoir si le terme est bien choisi. Puisqu'on se transporte dans les années 30, dans les années 40 et dans les années 50 pour parler de l'Église et la politique québécoise de Taschereau à Duplessis. On a la chance, en fait, d'avoir l'auteur de cet ouvrage, puisque oui, il s'agit du titre de notre émission, mais il s'agit surtout du titre d'un ouvrage qui vient d'être publié chez McGill Queen University Press. Et donc, son auteur, Alexandre Dumont, là avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
On est vraiment content de vous avoir. Et je vous présente brièvement à nos invités, en fait, à nos auditeurs. Certains vous connaissent déjà, puisque vous étiez déjà venu nous parler de Taschereau à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance et de l'abbé Pierre Gravel, sur qui vous aviez publié une petite monographie chez Septentrion il y a quelques années. Alexandre Dumas, vous êtes chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Chicoutimi, à l'UQAR également. Vous êtes également détenteur d'une maîtrise en études québécoises de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a porté sur l'abbé Pierre Gravel, un prêtre et syndicaliste particulièrement intéressant du milieu du 20e siècle. Votre thèse de doctorat faite à l'Université McGill a porté sur les relations entre l'Église et la politique québécoise sous Taschereau et sous Duplessis, qui est l'objet en fait du livre dont on parle ce soir. Et vous êtes également un conférencier recherché traite de ces questions et de cette époque un peu partout. Et donc, première question qu'on aime bien poser à nos invités avant de plonger dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux relations entre l'Église et l'État?
Mon projet initial, c'était une biographie du cardinal Rodrigue Villeneuve, qui était archevêque de Québec, donc qui a eu beaucoup à côtoyer les politiciens dans les années 30, dans les années 40. Et en observant sa correspondance, je me suis rendu compte d'abord qu'il avait des très bonnes relations avec la plupart des politiciens libéraux, qu'il avait des relations beaucoup plus ambivalentes avec Maurice Duplessis et avec l'Union nationale, même qu'il critiquait assez vertement Duplessis dans sa correspondance personnelle. Et donc, ces trouvailles là m'ont montré que les relations entre l'Église et l'État à l'époque de Taschereau et Duplessis étaient très différentes de ce qu'on imaginait au départ.
Oui, parce que quand on regarde la série Duplessis de Denis Arcand, eh bien, le cardinal Villeneuve et Duplessis, c'est deux très grands amis, tout va très bien. Les évêques mangent vraiment dans la main de Duplessis dans cette série-là.
Oui, c'était l'image que l'Union nationale et la propagande du parti ont tenté de construire et qu'apparemment, ils ont très bien réussi à construire puisque justement, on voit que ça s'est ancré dans la mémoire populaire.
Mais vous êtes capable de déconstruire ce mythe-là parce que vous avez eu accès à des sources auxquelles les autres historiens n'ont pas eu accès avant, si je ne m'abuse.
Oui, effectivement. J'ai fait le tour des évêchés de la province de Québec. Je suis allé à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, à Chicoutimi, à Sherbrooke, à Joliette, à Saint-Hyacinthe, et des archives, entre autres, de l'archevêché de Québec et de l'archevêché de Montréal, où j'ai été le premier chercheur à utiliser.
Quand même. Et donc, ça vous a permis vraiment d'avoir le point de vue des évêques, le point de vue, en fait, des hommes d'Église et le point de vue aussi des hommes d'État qui leur avaient écrit.
Oui, effectivement. C'est la partie qui était cachée du public, en fait, à laquelle j'ai pu accéder pour la première fois. Parce que l'image qu'on a des relations de l'Église et de l'État, c'est vraiment la partie publique, donc celle qui était exposée dans les journaux, dans les médias.
Oui, on aura l'occasion d'y revenir, mais pour l'instant, on s'en va déjà en musique avec une pièce bien choisie, je trouve, pour cette émission-ci. Monsieur le curé du Trio Lyrique. Le Trio Lyrique, c'est un trio vocal fondé à Montréal en 1932, donc en plein dans l'époque dont on parle aujourd'hui. Un trio fondé par le baryton Lionel Denet, qui s'est illustré par l'interprétation de chansons de folklore et de chansons originales de Denet lui-même. L'ensemble a été actif jusque dans les années 70 et donc on s'en va tout de suite avec Monsieur le curé, une pièce que Taschereau et Duplessis ont peut-être eu l'occasion d'entendre de leur vivant. Et on vous revient après la pause pour parler de ces relations qui semblent beaucoup plus complexes que ne le veut l'histoire populaire.
Monsieur le curé a perdu son chapeau, monsieur le curé a perdu son chapeau. On y soit qui mal écoute, j'en connais qui perd autre chose. Dominum nostrum, minimum et maximum, faut prier pour le trouver, Kyrie eleison.
Monsieur le curé a perdu sa perruque, Monsieur le curé a perdu sa perruque, faudra pas que ça paraisse de dimanche à la grand-messe. Dominum nostrum, macrénant d'un petit bonhomme, faut prier pour la retrouver, il y est là, il sort. Monsieur le curé a perdu son bedeau, Monsieur le curé a perdu son bedeau, que fera-t-il les jours de fête quand viendra le temps de la quête? Dominum nostrum, casserole d'aluminium, faut prier pour le retrouver, il y est là, il sort. Monsieur le curé a perdu son sermon, Monsieur le curé a perdu son sermon, ça veut dire que Casimir ne pourra plus s'endormir. Dominum nostrum, passez-moi mon verre de rhum, faut prier pour le retrouver, il y est là, il sort. Monsieur le curé a perdu son grelot, Monsieur le curé a perdu son grelot, c'était un petit bidelot, mais comme un son bello. Dominum nostrum, à part pour le forum, faut prier pour le retrouver, il y est là, il sort. Monsieur le curé a perdu son chagrin, Monsieur le curé a perdu son chagrin, il n'était pas aristocrate, mais son habit c'est la chatte. Dominum nostrum, en mangeant la tarte aux pommes, faut prier pour le retrouver, il y est là, il sort. Monsieur le curé a perdu sa servante, Monsieur le curé a perdu sa servante, et s'est mise à corde au cou avec un gars de chez nous. Dominum nostrum, allez se battre d'un homme, faut prier pour la sauver, il y est là, il sort.
Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire au prochain segment.
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Et ce soir, on parle des relations entre l'Église et l'État. On parle des relations entre l'Église et l'État, pardon, de Taschereau à Duplessis, en compagnie d'Alexandre Dumas, auteur d'une monographie sur le sujet issu de sa thèse de doctorat. Juste avant la pause musicale, on parlait de cette image qui est beaucoup plus complexe. D'une part, il y a une image qui est projetée par l'Union nationale. D'autre part, en fait, il y a une image réelle derrière les portes closes. On y reviendra tout à l'heure, mais pour l'heure, en fait, bon, mettons tranquillement les choses en contexte. À quoi ressemblent les relations entre l'Église et l'État au début du 20e siècle?
Au début du 20e siècle, les relations entre l'Église et l'État sont très bonnes si on les compare avec celles à la fin du 19e siècle. Donc, l'époque de l'ultramontanisme est terminée. Donc, c'était pas qu'on avait des évêques très turbulents qui voulaient vraiment mener le gouvernement, donc dicter les politiques du gouvernement de la province. Maintenant, il y a une belle collaboration entre les évêques et les politiciens. Donc, les politiciens consultent les évêques lorsqu'ils mettent en place les politiques sociales et les évêques donnent leur avis, surtout quand ils sont invités.
Et donc, on ne peut plus vraiment parler d'influence indue à cette époque-là.
On parlait d'influence indue au 19e siècle parce qu'on avait vraiment des curés qui abusaient de leur influence auprès de leurs paroissiens. Quand on voulait, par exemple, les forcer à voter pour un certain parti, on pouvait aller jusqu'à menacer de refuser les sacrements à ceux qui voteraient pour le mauvais parti. Alors, cette habitude-là, elle n'existe plus au début du 20e siècle. On a encore des prêtres qui se mêlent de politique, mais ils le font comme le ferait n'importe quel citoyen.
Ouais, donc plus de consignes de l'évêque en tant que tel.
Exactement.
Et donc, à quoi est-ce que... C'est ça, on a une idée, en fait, des relations globales, mais qu'en est-il, en fait, du gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau? Parce que, bon, c'est quand même un gouvernement qui va être particulièrement important dans l'histoire du Québec. Il est là de 1920 à 1936. On a souvent présenté les libéraux comme étant particulièrement loin de l'Église, mais en même temps, bon, Louis-Alexandre Taschereau, son oncle, est le cardinal à la fin du 19e siècle à Québec. Il est décédé lorsque Louis-Alexandre prend le pouvoir, mais donc on voit qu'il vient d'une famille quand même assez pieuse. Et donc, à quoi est-ce que ressemblent les relations entre l'Église et l'État entre 1920 et 1936?
On a beaucoup dit qu'elles étaient mauvaises parce qu'il y a eu des épisodes un peu difficiles entre l'Église et l'État sous Louis-Alexandre Taschereau. Donc, par exemple, la loi sur l'assistance publique, qui était la première fois que l'État investissait le champ de la charité publique. Sur la commission scolaire juive que les libéraux ont tenté de faire sur l'île de Montréal. Et il y a eu à ce moment-là des affrontements entre l'Église et l'État, donc l'Église qui ne voulait pas de ces lois qui étaient proposées par le gouvernement libéral, et les chercheurs ont beaucoup scruté à la loupe ces événements-là, comme pour montrer que ces affrontements, en fait, c'était le quotidien du gouvernement libéral et de l'Église. Alors qu'évidemment, ce sont des événements isolés qui n'empêchaient pas les bonnes relations avec l'Église. Donc justement, les évêques qui sont consultés par le gouvernement, surtout de la législation sociale, et Louis-Alexandre Taschereau n'hésitait pas à retirer carrément un projet de législation quand les archevêques de Québec ou de Montréal lui disaient que non, c'était une mauvaise idée, c'est pas une législation chrétienne.
Et donc, effectivement, la question des écoles juives ou la question de l'assistance sociale sont davantage des exceptions au final que la norme.
Exactement, oui.
Et si on parle un petit peu plus de la question des écoles juives, en quoi est-ce que justement ça va causer un froid avec l'épiscopat?
Eh bien, les évêques vont critiquer publiquement la proposition de créer une commission scolaire juive en disant que justement cette législation proposée, elle n'est pas chrétienne, elle est contraire à la doctrine sociale de l'Église catholique. Et ça, évidemment, c'est une critique qui fait mal au gouvernement. Le Parti conservateur de Camille Lienhoud, entre autres, va récupérer la question des écoles juives et va tenter d'en faire la question de la prochaine campagne électorale. Donc, de voir les évêques qui critiquent publiquement le gouvernement, c'est pratiquement les voir prendre position contre le gouvernement pour l'opposition. Donc, d'où une certaine friction entre les deux parties.
Donc, au final, les positions prises par les évêques sont récupérées par l'opposition.
Oui, effectivement. D'ailleurs, Duplessis va également prendre cette habitude de récupérer toutes les déclarations des évêques pour en faire une prise de position politique.
Et dans votre ouvrage, vous affirmez que, bon, grosso modo, les relations entre Louis-Alexandre Taschereau et l'épiscopat sont assez bonnes, mis à part lors de ces épisodes-là. Mais vous dites que quand il y a eu du mal à faire face à Mgr Alfred Dillon-Comtois, évêque de Trois-Rivières de 1934 à 1946, qu'est-ce qui s'est passé avec Mgr Comtois?
Alors, Mgr Comtois, c'est l'héritier spirituel de Mgr Laflèche, donc le dernier des grands évêques ultramontains. Alors, Mgr Comtois, justement, c'en est un évêque qui pouvait prendre position publiquement contre les propositions du gouvernement, ou par exemple pour dire que le gouvernement ne s'attaquait pas suffisamment au problème de l'alcoolisme. Vraiment, on critiquait les politiques publiques, et on le faisait des fois en citant des noms, en attaquant des politiciens directement. Il va beaucoup critiquer, entre autres, Athanase David, le secrétaire de la province, ce qui va créer justement des froids. Et même parfois, l'archevêque de Québec, Mgr Villeneuve, va devoir rappeler Mgr Comtois à l'ordre pour lui demander de se calmer.
Ouais, alors que les autres évêques ne se gênent pas non plus pour critiquer les politiques de Taschereau, mais ils le font au téléphone, ils le font dans des lettres, ils le font donc sous le couvert du privé.
Exactement. Ou encore, ils vont demander à leur archevêque d'en parler au premier ministre à leur place.
Oui, donc effectivement, on comprend pourquoi Taschereau, en fait, avait un peu plus de difficultés avec lui. Et une des questions aussi qui, à l'époque, est particulièrement vive, tant pour l'Église que pour les partis politiques, c'est la question du communisme. On a peur des communistes. Et donc, au final, est-ce que le Parti libéral trouve un allié en l'Église dans cette crainte-là du communisme?
Non, pas du tout. Parce que d'un côté, on a la majorité des évêques et peut-être des prêtres également, qui ne considèrent pas que le communisme est une menace sérieuse au Canada français. L'archevêque de Québec, Mgr Villeneuve, va souvent dire qu'il n'y a pas de communistes sérieux au Québec. Les rares personnes qui prêchent le communisme sont simplement des ouvriers chômeurs qui veulent améliorer leur sort. Alors, ces personnes, évidemment, n'apprécieront pas les efforts du gouvernement pour lutter contre le communisme. Et ceux qui sont vraiment préoccupés par le communisme, eux vont trouver au contraire que les efforts de Taschereau sont insuffisants. Ils vont toujours réclamer plus.
Ouais, donc au final, c'est pas très fructueux de ce côté-là. Tout à l'heure, vous mentionniez que le chef de l'opposition, Camille Lienhoud, avait récupéré les positions des évêques lorsque ça faisait son affaire pour attaquer Taschereau. Vous avez mentionné que les relations de Taschereau étaient somme toute bonnes avec l'épiscopat, sauf avec quelques évêques et sauf lors de crises en particulier. Mais qu'en est-il avec les chefs de l'opposition comme Camille Lienhoud, comme éventuellement Paul Gouin, qui va être le chef de l'Action libérale nationale? nationale ou comme Maurice Duplessis qui va prendre la suite au Parti conservateur après le départ de Camillien Houde?
Alors, les évêques ont très peu de relations avec les chefs de l'opposition. Les évêques, leurs relations, ils les ont surtout avec le pouvoir, donc avec le premier ministre, avec ses ministres, éventuellement avec les députés qui représentent les circonscriptions de leur diocèse. Mais ils n'en tiendront pas de relations actives avec les différents chefs de l'opposition, puisqu'il n'y a absolument rien à espérer d'eux. Même quand on parle aux députés, on va aller voir les députés du parti au pouvoir, donc les libéraux.
Et du côté du clergé, parce que bon, on a beaucoup parlé des évêques, mais est-ce qu'il y a des prêtres qui vont prendre position publiquement pour le Parti libéral à cette époque-là? Parce que bon, lorsqu'on pense à la psyché populaire, tout le monde est capable de dire « Ah oui, il y a des prêtres qui se levaient en chair pour dire de voter pour le Parti l'Union nationale », mais est-ce qu'il y en avait aussi à l'époque de Taschereau? Est-ce qu'il y en avait qui prenaient parti pour le Parti libéral?
Il y a beaucoup de prêtres qui vont prendre position pour le Parti libéral. Souvent, des prêtres qui viennent de familles très libérales, parce qu'on tient souvent l'allégeance politique de la famille. Donc oui, il y a des prêtres qui vont parler soit pour le Parti libéral ou contre les partis d'opposition, et même à l'Église. Donc il y a des prêtres vraiment qui vont ridiculiser les députés conservateurs ou de l'Action libérale nationale, même en chair.
Et ces prêtres-là, est-ce qu'ils vont être appelés à l'ordre?
Ils vont être rappelés à l'ordre au même titre que ceux qui parlent pour le Parti conservateur. Mais pendant longtemps, en fait jusqu'à 1935, la politique, ça va être de simplement laisser passer les excès. De rappeler à l'ordre ceux qui vont vraiment trop loin, mais généralement de permettre aux prêtres d'avoir des prises de position politique au même titre que n'importe quel citoyen.
Et qu'est-ce qui fait qu'en 1935, on change de façon de faire?
Alors, en 1935, il va y avoir plusieurs prêtres, des dizaines de prêtres qui vont s'impliquer dans la campagne électorale, simplement, principalement, pour demander des élections propres. Parce que les élections de 1931 ont été particulièrement marquées par des pratiques frauduleuses, des assemblées, par exemple, qui ont été torpillées par des fiers à bras, des votes qui ont été achetés. Et donc, en 1935, plusieurs prêtres vont se mêler de politique pour demander des élections sans corruption. Et beaucoup de candidats libéraux vont percevoir ces attaques contre la corruption comme des attaques contre eux, contre leur parti. Et effectivement, il y a des prêtres également qui vont prendre position pour l'Action libérale nationale, donc le parti de Paul Gouin. Donc, ces prêtres politiciens, mêlés à tous ceux qui demandent des élections sans corruption, ça donne vraiment l'impression d'une offensive massive de la part du clergé contre le Parti libéral. Et donc, Taschereau va s'en plaindre au cardinal Villeneuve. Il va monter un dossier très étoffé avec les interventions des prêtres au cours de la campagne, ce qui va amener le cardinal Villeneuve à établir des règles beaucoup plus strictes sur la participation des prêtres aux campagnes électorales, en leur disant qu'il faut éviter de laisser croire que l'Église favorise un parti ou un autre.
Et en 1935, donc, on a une victoire du Parti libéral qui est beaucoup moins forte que la victoire de 1931. Donc, on parle de victoire, mais dans une certaine mesure, c'est une victoire qui, bon, fait quand même mal parce que le nombre de députés de l'opposition croît alors que le nombre de députés du Parti libéral descend considérablement. Comment va réagir le clergé face à cette victoire-là? Est-ce qu'il se réjouit d'avoir eu enfin des élections propres? Est-ce qu'on a eu des élections propres? Est-ce qu'il se réjouit de voir Louis-Alexandre Taschereau porté au pouvoir?
Alors d'abord, les élections sont loin d'être propres. Je pense surtout au comté de Montréal-Saint-Laurent, de mémoire, où le taux de participation frôlait les 110%.
Toujours pratique de faire voter les gens morts.
Mais par contre, du côté des prêtres plus sympathiques à l'opposition, alors on parle ici autant de prêtres conservateurs que d'anciens libéraux qui sont sympathiques au nouveau mouvement de l'Action libérale nationale. Alors ici, on va vraiment se réjouir de voir le gouvernement libéral être affaibli, mais naturellement, du côté des prêtres libéraux, bien, on regrette la défaite. Il y a plusieurs prêtres qui vont écrire à Taschereau pour lui dire que la population a été injuste envers lui et ingrate pour tout le bon travail qu'il a fait.
Et justement, puisqu'on parle de la population, sa réaction à la participation du clergé, et quelle est-elle? Parce que bon, Taschereau n'est pas très content lorsque les prêtres parlent contre lui, est content lorsque les prêtres parlent pour lui, mais la population, est-ce qu'elle accepte que le clergé parle?
Dans l'opinion publique, on accepte la participation des prêtres lorsqu'ils favorisent notre parti, on la dénonce quand elle favorise l'autre parti. Donc, les libéraux vont vraiment dénoncer l'influence indue, vont dire que c'est indigne de l'Église de se mêler de politique, alors que du côté de l'opposition, des journaux sympathiques à l'opposition, là, on va défendre le droit des prêtres de prendre la parole. on va dire qu'ils avaient raison, étant donné que c'était des questions morales, des questions religieuses, donc ils avaient raison de se positionner.
Ouais, alors qu'on pourrait dire le contraire si ça faisait pas notre affaire.
Effectivement.
Et en 1936, eh bien, on voit un nouveau parti qui se crée à la suite de la commission le scandale des comptes publics. Je remets brièvement en contexte. On est à la fin du régime Taschereau. Il y a beaucoup de dépenses pas trop nettes qui ont été faites par bon nombre de députés, certains ministres. Le Parti libéral va être amené justement en commission d'enquête et Duplessis va être particulièrement bien préparé pour être capable de mettre de l'avant les abus qui ont été faits par différents députés. Et on a à l'époque justement un nouveau parti qui est créé est issu de la fusion de l'Action libérale nationale et du Parti conservateur, l'Union nationale. Et ce parti-là, justement, lorsqu'il est créé, comment est-ce qu'il est vu par le clergé?
Au départ, avec beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de prêtres qui ont des grandes attentes envers l'Action libérale nationale et son successeur, l'Union nationale, parce que le programme de l'Union nationale, c'est le programme de restauration sociale. Donc, un programme qui a été au départ écrit par l'École sociale populaire des Jésuites de Montréal, qui est clairement inspiré de la doctrine sociale de l'Église, plus principalement du pape Pie XI. Donc, on a vraiment beaucoup d'espoir envers un parti qui puise sa politique dans les enseignements de l'Église. Donc, au départ, on espère que l'Union nationale va prendre le pouvoir et qu'il va mettre intégralement son programme en application.
Mais
une fois au pouvoir, Duplessis va renier la plupart de ses promesses. Il va même dire quelques années plus tard qu'il n'a jamais cru au programme de l'Action libérale nationale et ça va beaucoup changer la façon dont plusieurs prêtres vont voir l'Union nationale. Il y en a qui vont lui rester fidèles jusqu'à sa mort, il y en a d'autres qui vont être assez déçus pour le combattre dans les années qui vont suivre les élections de 1936.
Mais si on en vient au premier mandat de l'Union nationale entre 1936 et 1939, à quoi ressemblent les relations entre l'Église et l'État à cette époque-là?
Elles sont très difficiles parce que Duplessis va politiser beaucoup plus le gouvernement que ne l'ont jamais fait les libéraux. Entre autres, faut préciser que ça fait 40 ans qu'on n'a pas connu de changement de gouvernement au Québec. Et donc, quand Duplessis arrive, qu'il congédie la plupart des fonctionnaires libéraux pour les remplacer par des fonctionnaires conservateurs, alors l'Église se demande pourquoi est-ce qu'on congédie des bons pères de famille pour les remplacer par des gens qui souvent n'ont aucune expérience, aucune compétence particulière. Donc ça, c'est un point qui va être très critiqué par les évêques. Et aussi, le fait qu'on politise les subventions, par exemple, les octrois aux différents organismes. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui va être critiqué. Et la lutte contre le communisme de Duplessis qui attaque plus principalement les ouvriers, alors que les évêques de l'époque sont très...
Plutôt progressistes.
Ils sont très progressistes. Ils comptent sur une amélioration du sort des travailleurs pour lutter contre le communisme, beaucoup plus que sur la méthode armée de la loi du cadenas, par exemple.
Ouais, donc les relations ne sont pas très bonnes. Est-ce que Duplessis consulte les évêques à cette époque-là, lors de son premier mandat?
Duplessis ne consulte jamais les évêques avant de prendre une décision. Lui, il est le seul chef à bord de sa province. Il n'a pas besoin d'avoir l'avis des évêques. Par contre, il va s'attendre à avoir leur appui. Il ne consulte pas les évêques, mais il est généreux envers les institutions qui sont dirigées par l'Église. Il s'attend à ce qu'on le remercie publiquement pour tous les octrois qu'il fait. On s'attend à ce que les évêques, les prêtres prennent position en sa faveur.
Et lorsqu'un prêtre prend position en sa faveur, on récupère son discours.
Évidemment.
Ouais. Et donc, sur ce, on s'en va en musique avec un extrait de la messe de Sainte-Thérèse de Théodore Félix von La Hache, compositeur d'origine allemande du 19e siècle qui va passer l'essentiel de sa carrière à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Il a composé une superbe messe pour Sainte-Thérèse dont un extrait joue dans Le règne de la beauté de Denis Arcand. Et donc, j'avais envie de vous faire découvrir ce petit morceau puisqu'on parle de musique sacrée. Et qu'on parle des relations entre l'Église et l'État. Et donc, on s'en va avec l'Agnus Dei de la messe de Sainte-Thérèse de von La Hache. Et on vous revient tout de suite après avec les élections de 39. Et on va voir que ça se corse.
Thank you. Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à CHIZ pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis, dès 13h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de CHIZ 94.3.
Du 1er au 4 août, au Parc de l'Esplanade, l'histoire se joue au fait de la Nouvelle-France T&D. Venez bavasser avec des personnages de l'histoire, boire un petit rhum à l'auberge Chic-Choc, taquiner la chance à la maison de jeu, regarder le défilé, puis vous instruire sur nos origines. Manquez pas Vilain Pingouin sur la scène T&D le 3 août. Puis tout ce que ça prend, ben c'est un petit médaillon dans le cou. En vente à seulement 12 pièces dans les succursales T&D puis Brunet participantes, puis au nouvellefrance.qc.ca.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute CHIZ 94.3.
Terre en vue, Capitaine Cartier.
Ha! Quoi demander de mieux? Le cap brille de 1000 diamants. Il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire.
Toujours sur les ondes de CHIZ 94.3, comme vient de nous le rappeler Jacques Cartier lui-même. Et justement, nous sommes en train de parler d'un sujet complètement différent, par contre. L'Église et la politique québécoise de Taschereau à Duplessis, en compagnie d'Alexandre Dumas, auteur d'une monographie sur l'Église et la politique québécoise de Taschereau à Duplessis. Justement, c'est le titre de son ouvrage, issu de sa thèse de doctorat. Juste avant la pause musicale, on parle premier mandat de l'Union nationale, mandat sous lequel, effectivement, eh bien là, le communisme, ça devient soudainement vraiment, vraiment dangereux.
Oui, effectivement. Il faut préciser que 1936, c'est l'année où commence la guerre civile en Espagne.
Oui, effectivement.
Qui oppose, justement, les nationalistes du général Franco au Front populaire, donc un rassemblement de socialistes, de communistes et d'anarchistes, ce qui fait très peur aux catholiques de partout dans le monde et, entre autres, à ceux du Québec. Parce que si même la très sainte Espagne peut basculer dans le giron du communisme, alors ça veut dire qu'il n'y a aucune société qui est imperméable à l'invasion communiste. Et c'est donc en 1936 que les évêques de Québec, de la province de Québec, vont vraiment commencer à s'intéresser au communisme et à demander au gouvernement une législation pour combattre le socialisme.
Et comment Duplessis va réagir à ça?
En le récupérant, naturellement.
Forcément.
Donc, il va créer ce qu'on connaît comme la loi du cadenas, donc une loi qui, sans définir le communisme, permet au gouvernement de faire fermer tout établissement soupçonné de véhiculer la propagande communiste. Et quand il va présenter son projet de loi, il va dire que c'est pour seconder les efforts patriotiques de son éminence, le cardinal Villeneuve. Ce qui va donner naissance à la légende comme quoi c'était le cardinal lui-même qui aurait commandé la loi du cadenas à Duplessis, voire qu'il l'aurait dictée, qu'il l'aurait imposée au gouvernement.
Avez-vous trouvé des choses dans la correspondance de Villeneuve pour savoir comment il se positionnait face à cette loi-là? Est-ce qu'il était content que Duplessis l'ait mis en place?
Alors, visiblement, il n'était pas satisfait, étant donné que l'année suivante, il va faire une grande manifestation à Québec. Il va réunir environ, je crois, 25 000 personnes de mémoire, justement pour demander que le gouvernement mette en place une législation pour lutter contre le communisme, ce qui laisse croire que la loi du cadenas est, selon lui, pas suffisante. Et il va toujours demander surtout qu'on améliore la condition de la classe ouvrière. Donc, combattre la propagande communiste, c'est pas suffisant selon lui.
Et en 1939, est-ce que ça va pousser les membres du clergé à s'engager contre Duplessis puisqu'il n'est pas très populaire au sein du clergé lors de son premier mandat?
Alors, effectivement, ce qu'on réalise, c'est que beaucoup des prêtres qui ont appuyé l'Union nationale en 1935 et en 1936 ont complètement déserté le parti en 1939. Ceux qui sont encore favorables à Duplessis, ce sont ceux qui ont profité des largesses financières de l'Union nationale, donc qui ont vu leurs œuvres être financées par le gouvernement, ou encore les plus conservateurs, donc ceux qui pensent justement que la meilleure façon de combattre le communisme, c'est d'écraser les syndicats.
Et donc, lorsque les libéraux reprennent le pouvoir en 1939, est-ce qu'on ouvre le champagne chez le clergé?
Du côté des évêques, oui. Alors,
le vin de messe plutôt.
L'archevêque de Québec et l'archevêque de Montréal vont saluer l'arrivée au pouvoir d'Adélard Godbout et du Parti libéral. Même Duplessis, le cardinal Villeneuve va le dire en privé. Duplessis a été si sot, si grisé et si désagréable pendant son terme qu'il laisse peu derrière lui.
Effectivement, on voit pas là vraiment la trace d'un ami. Et donc, Godbout, est-ce qu'on en a une aussi bonne opinion que Taschereau dans le clergé?
Alors, c'est très différent, entre autres parce que Godbout va commencer son règne. La première loi qu'il va faire voter, ça va être d'accorder le droit de vote aux femmes. Donc, c'est une loi qui ne va pas nécessairement créer un fossé entre l'Église et l'État, mais c'est une loi qui va être critiquée parce qu'il n'y a absolument aucun évêque qui est favorable à l'idée que les femmes puissent voter au Québec. Et dans le clergé aussi, c'est quelque chose qu'on remarque, qu'on regarde avec une certaine méfiance, même s'il y a des prêtres qui sont en faveur du vote des femmes. Mais généralement, les relations entre l'Église et l'État sous Adélard Godbout vont être semblable à celle qu'il y avait sous Louis-Alexandre Taschereau. C'est-à-dire qu'on va recommencer à consulter le clergé sur la législation sociale, sur tout ce qui concerne l'alcool, par exemple. Et surtout, il y a la question de l'Université de Montréal, qui va vraiment faire une différence. Duplessis avait réglé les difficultés financières de l'Université de Montréal avec une subvention annuelle qui s'accompagnait d'une condition, c'était que le gouvernement allait désormais nommer la majorité des membres du conseil d'administration. Donc, jusqu'à un certain point, on proposait de faire de l'Université de Montréal une université laïque. Quand Adélard Godbout va revenir au pouvoir, il va maintenir la subvention annuelle, il va même offrir des subventions supplémentaires à l'Université de Montréal, mais lui, par contre, va rendre à l'Université sa pleine autonomie et va nommer l'archevêque de Montréal, va remettre le conseil d'administration à l'archevêque de Montréal. Donc, le contrôle que l'État avait commencé à exercer sur l'Université sous Duplessis, Godbout le rend à l'Église. Et ça, c'est intéressant quand on pense que Duplessis est passé à l'histoire comme un ultramontain, alors que Godbout est passé à l'histoire comme un laïc qui aurait fait la Révolution tranquille avant le temps.
Oui, effectivement, on est bien loin de ce que veut la mémoire populaire. Mais lorsque vous parlez de cette bonne entente-là entre l'Église et l'État sous Godbout, est-ce qu'elle est troublée par certaines choses, outre l'octroi du droit de vote aux femmes?
Alors oui, il va quand même y avoir des insatisfaits de son gouvernement. Entre autres, les plus nationalistes des membres du clergé n'apprécieront pas du tout sa position par rapport à l'effort de guerre. Godbout fait vraiment la promotion d'une pleine participation à la guerre et demande aux Canadiens français de seconder ses efforts. Et ça, les membres les plus nationalistes du clergé ne l'apprécieront pas. Il y en a qui vont justement se rapprocher de Duplessis, d'autres qui vont se rapprocher plutôt du Bloc populaire canadien d'André Laurendeau.
Et justement, bon, est-ce qu'on voit un gouffre entre les évêques et le clergé sur la question de la Deuxième Guerre mondiale et éventuellement sur la question de l'appui à l'Union nationale, au Bloc populaire et au Parti libéral?
Les évêques, eux aussi, sont très divisés sur la question de la guerre. On a le cardinal Villeneuve à Québec et Mgr Mélenchon à Chicoutimi qui, eux aussi, sont en faveur d'un plein effort de guerre et qui voudraient que les évêques appuient la politique du gouvernement canadien. Et on a d'autres évêques plus nationalistes qui, eux, ne voudront surtout pas prendre position ou au moins prendre une position beaucoup plus mitigée. Par exemple, ne pas nuire aux efforts du gouvernement sans pour autant demander aux Canadiens français de s'enrôler dans l'armée.
Oui, effectivement. Et donc, par exemple, il va y avoir un appui du côté du Bloc populaire. Est-ce que vous pouvez nous parler plus amplement de ce parti-là et de ses relations avec le clergé?
Alors, le Bloc populaire, c'est un parti qui, justement, a été créé pour s'opposer à la participation du Canada à la guerre, pour s'opposer à la conscription, et son programme va être, en gros, le programme de l'Action libérale nationale. Donc, plusieurs prêtres vont appuyer le nouveau parti, vont appuyer André Laurendeau, beaucoup moins cependant qu'à l'époque de l'Action libérale nationale. D'abord parce que les prêtres ne peuvent plus faire de politique autant qu'à l'époque, mais aussi parce que les chefs du Bloc populaire canadien sont beaucoup moins connus, n'ont pas la même réputation que les chefs de l'époque à l'Action libérale nationale.
Et en 1944, lorsqu'on va avoir les élections qui vont reporter Duplessis au pouvoir, à quoi va ressembler la participation du clergé?
Elle va être très discrète parce que justement, désormais, les évêques s'assurent qu'il n'y ait pas de débordement. Les membres du clergé les plus bruyants qui étaient là en 35-36 ont été réduits au silence pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le clergé va être très discret. Les seuls qui vont prendre position vont parler d'alcoolisme, un dossier sur lequel Adélard Godbout a été plus libéral, mais c'est vraiment une exception.
Et sur ce, on retourne en musique avant de vous revenir avec la grande noirceur, terme sur lequel on aura l'occasion en fait d'interroger notre invité. On s'en va avec Le drapeau de Carillon, interprété par Jules Bruyère. C'est un chant patriotique bien connu de l'époque qui est interprété avec plus ou moins de brio par une fanfare dans la série Duplessis de Denis Arcand. Duplessis déclara d'ailleurs au sujet des fanfares de village en 1955 lorsqu'il était interrogé à ce sujet par Georges-Émile Lapalme à l'Assemblée législative. Il disait « Ne faut pas mésestimer le rôle qu'elles jouent dans la vie paroissiale. » On parle des fanfares, de village. « Elles font un bien immense. Elles incitent au dévouement. Elles développent le goût de l'art, de la musique. Elles fournissent des distractions saines. Voilà pourquoi elles méritent d'être aidées. » Et on peut probablement penser qu'elles méritent d'être aidées parce qu'une petite enveloppe par ici, une petite enveloppe par là, ça aide à faire réélire les députés. Et donc, le drapeau de Carillon qu'on entend dans la série Duplessis, interprétée par une fanfare, mais dans une version ici de Jules Bruyère.
De Frontenac. Je vous répondrai par la bouche de mes micros.
Toujours sur les ondes de 3600 secondes d'histoire. Vous êtes ce soir en compagnie d'Alex Tremblay-Lamarche à l'animation et d'Alexandre Dumas puisque nous parlons de son livre « L'Église et la politique québécoise de Taschereau à Duplessis », un ouvrage issu de sa thèse de doctorat, ce qui réévalue en fait les relations entre l'Église et l'État dans les années 30, 40, 50. On parlait juste avant la pause des relations entre le Parti libéral d'Adélard Godbout et l'Église, qui, bon, sont somme toute bien meilleures que celles qu'avait eues l'Union nationale avec, avec les évêchés et avec les membres du clergé entre 36 et 39. Mais en 44, s'ouvre une nouvelle période, une période qui va durer, grosso modo 16 ans, puisque, bon, Duplessis meurt en 59, mais l'Union nationale reste au pouvoir jusqu'en 60, une période qu'on nomme la Grande Noirceur, au cours de laquelle les relations entre l'Église et l'État changent peut-être, on le verra avec notre invité. Mais avant de se plonger dans cette Grande Noirceur, tout d'abord, Alexandre Dumas, qu'est-ce que vous pensez du terme Grande Noirceur?
C'est une construction historique, naturellement, faite beaucoup par les artisans de la Révolution tranquille, qui, comme nous disait le journaliste Laurier Lapierre, on voulait croire qu'on apportait la lumière dans la province. Il nous fallait donc croire qu'auparavant, tout n'était que noirceur. Et c'est une construction historique qui s'est très bien implantée dans la mémoire collective.
Effectivement. Et à partir de cette époque-là, bon, commence une nouvelle époque. Alors, on va donc analyser un petit peu les relations de l'Union nationale et de Duplessis avec l'Église à cette époque-là. Mais tout d'abord, avant de se plonger dans le sujet, est-ce que Duplessis est un homme pieux?
Alors oui, Duplessis est un homme pieux. C'est l'image évidemment qu'il donnait en public. Entre autres, il est connu pour avoir toujours présenté ses projets de loi le mercredi, donc le jour de Saint-Joseph. Donc oui, c'est une religion public, mais dans l'intimité également, c'est un homme très pieux, très croyant et très dévoué envers l'Église. Par exemple, il aimait faire des paris avec Gérald Martineau, son trésorier, sur l'issue des parties de baseball, des paris qu'il gagnait très souvent, et le profit de ces paris, il les envoyait toujours aux missions au Japon, ou aux missions catholiques, où sa filleule, qui était religieuse, était missionnaire.
Et donc, un homme pieux, mais un homme pieux, en fait, qui n'accepte pas que les évêques lui disent ce qu'il doit faire. Dans votre ouvrage, vous dites que Duplessis fixe les règles du jeu dans les rapports entre l'Église et l'État. Quelles sont ces règles?
Alors, pour obtenir de l'argent, il faut le demander. Il faut le demander poliment et il faut être capable de dire merci. Ce qui veut dire souvent
un
remerciement public, évidemment. On a des évêques qui vont être très bons pour ça. Je pense entre autres à Mgr Desmarais à Amos ou Mgr Langlois à Valleyfield. Donc, eux vont faire des remerciements publics. Dans certains cas, c'est très évident, comme Mgr Desmarais qui va vraiment remercier Duplessis et ses collègues du Conseil des ministres, ou plus subtil, comme Mgr Langlois, quand l'Union nationale va faire construire un pont pour unir les deux rives de Valleyfield. Alors, Mgr Langlois va remercier ceux qui ont permis à son diocèse de vivre désormais dans l'union.
C'est assez clair quand même. Et donc, on a des évêques qui vont jouer le jeu, mais est-ce qu'on va avoir certains évêques qui ne joueront pas le jeu?
Oui, évidemment. Il y en a qui ne comprendront visiblement pas les règles. Je pense à Mgr Limoges de Mont-Laurier, qui jamais va s'abaisser à supplier Duplessis pour recevoir de l'argent, mais qui va même suggérer que les subventions, par exemple, aux écoles soient calculées en fonction des besoins des établissements et du nombre d'élèves. Donc, des suggestions qui, évidemment, ne seront pas prises en considération. Mais on a aussi des évêques qui vont critiquer derrière les portes closes, le système de patronage de l'Union nationale. Justement, le fait qu'on traite les enfants ou les malades comme une clientèle.
Et c'est une époque, justement, où vous parlez, bon, des enfants dans les écoles, vous parlez également, bon, des hôpitaux. C'est une époque où l'État va de plus en plus financer ces services-là qui, bon, autrefois étaient uniquement, en fait, émanaient uniquement de l'Église, même si, bon, il y a toujours eu quelques subsides qui étaient donnés, mais bon, c'était plus marginal avant.
Oui, effectivement, et c'est justement comme ça que Duplessis va en quelque sorte préparer la laïcisation du système d'éducation, du système de santé, en habituant toujours de plus en plus les évêques, les institutions religieuses à dépendre des subventions du gouvernement. Donc, sous le règne de l'Union nationale, on va beaucoup améliorer le système de santé, le système d'éducation, mais évidemment, améliorer le système, ça représente des coûts supérieurs, et donc, bien vite, on ne pourra plus faire fonctionner les écoles, les hôpitaux sans toutes les subventions du gouvernement.
Et comment est-ce que le clergé va se positionner face à Duplessis au cours de cette période? Parce que, bon, on a vu lors de son premier mandat de 36 et 39, mis à part, bon, quelques prêtres plus conservateurs ou quelques prêtres qui bénéficient des largesses de l'Union nationale, eh bien, on n'est pas très sympathique face au premier mandat de l'Union nationale. Mais à partir de 44 jusqu'en 60, comment se positionne le clergé?
Alors, d'un côté, on a les alliés les plus fidèles de Duplessis. Ce sont les prêtres très conservateurs, ceux qui considèrent vraiment que la menace communiste est un danger qu'il faut combattre et que Duplessis est vraiment l'homme de la situation pour écraser les communistes. Donc, on parle ici vraiment là, d'ultra-conservateurs. On a aussi des prêtres qui vont être favorable à Duplessis, mais plus souvent au nom du nationalisme. Donc, ce sont des gens qui apprécient la lutte de Duplessis pour l'autonomie provinciale face à Ottawa, pendant qu'il y a une offensive centralisatrice de la part du Parti libéral du Canada. Donc, Duplessis, qui se tient debout face à Ottawa, c'est vraiment très apprécié. Beaucoup plus que l'attitude d'Adélard Godbout ou de son successeur Georges-Émile Lapalme, qui, eux, sont prêts vraiment à faire toutes les concessions au nom de l'unité canadienne. Mais encore une fois, il va y avoir aussi des opposants à Duplessis dans le clergé, donc principalement des prêtres libéraux, toujours sympathiques au Parti libéral, et d'autres aussi qu'on va beaucoup plus remarquer, comme le père Georges-Henri Lévesque de l'Université Laval.
Et donc, au final, bon, on voit qu'il a des alliés très proches, des sympathisants, des opposants. Mais est-ce qu'on peut dire que, bon, les relations sont bonnes entre l'Église et l'État? Est-ce qu'on peut dire qu'elles s'améliorent si on compare avec le premier mandat?
Elles sont certainement meilleures que dans le premier mandat.
Elles ne pouvaient pas être pires.
Elles ne pouvaient pas être pires, effectivement, parce que Duplessis, au moins maintenant, a ses alliés parmi les évêques, des gens qui apprécient sa façon de faire, ce qui n'était pas le cas dans le premier mandat de 36-39. Par contre, elles restent tumultueuses parce que, justement, on a ces évêques qui sont contre lui. On parle beaucoup de Mgr Charbonneau, mais c'est pas le seul. On a Mgr Desranleau à Sherbrooke, on a Mgr Labrie sur la Côte-Nord. Donc, on a quand même des évêques qui sont contre l'Union nationale ou qui n'apprécient simplement pas sa façon de faire les choses.
Qu'est-ce que ces évêques-là lui reprochent?
Principalement la trop grande politisation, encore une fois, des octrois, le fait qu'on considère les octrois, les subventions, si je peux dire, aux hôpitaux et aux écoles comme un cadeau personnel à l'évêque, et aussi le fait, l'hypocrisie un peu de l'Union nationale dans ses luttes dites morales. Par exemple, sa lutte contre l'alcoolisme, dont Duplessis est très fier, alors qu'en réalité, on sait que la police des liqueurs était très sévère envers les libéraux, mais très souple envers les amis du parti.
Et donc, puisqu'on parle du parti, justement, est-ce que les évêques apprécient l'Union nationale plus qu'ils n'apprécient Duplessis ou est-ce qu'ils apprécient moins l'Union nationale qu'ils n'apprécient Duplessis? Est-ce que la relation est différente entre, d'une part, Duplessis et d'autre part, l'Union nationale?
Les relations sont justement extrêmement personnelles. Donc, les évêques peuvent avoir une très bonne relation avec leur député, qui est souvent un ministre, ou elles peuvent être très bonnes personnellement avec Duplessis sans s'accompagner nécessairement d'une sympathie politique. Duplessis va avoir ses amis parmi les évêques qui ne seront pas nécessairement ses alliés sur le plan politique.
Et pourquoi est-ce qu'on se souvient alors de Duplessis comme étant un homme très proche de l'Église si, au final, il a contribué à laïciser l'État en rendant en fait les hôpitaux, les écoles de plus en plus dépendants des subventions de l'État, s'il a contribué justement bon, à avoir... disons que sa lutte contre le communisme a causé des problèmes à certains évêques, etc. Pourquoi est-ce qu'on a cette vision-là de Duplessis?
Parce que la machine de l'Union nationale a très bien fonctionné. À chaque fois qu'un évêque ou qu'un prêtre va prendre position en faveur de l'Union nationale, on va retranscrire son discours, on va l'imprimer et on va le distribuer dans toutes les maisons de la paroisse ou de même du comté. Et c'est ce qui va permettre de garder vraiment très frais dans la mémoire populaire l'idée que l'Église était sympathique à Duplessis. En 1960, entre autres, on va vraiment publier un recueil de tous les témoignages sympathiques qu'on a pu recueillir, même s'ils sont subtils, qui montrent que du côté du clergé, on était du côté de l'Union nationale.
Et donc, au final, c'est assez paradoxal parce que, bon, l'Union nationale fait ça en 1960 vraiment pour s'aider parce qu'il y a une bonne partie de la population qui accorde de la crédibilité aux évêques, aux membres du clergé, etc. Mais, bon, dans une certaine mesure, elle se condamne du côté des historiens parce que les historiens, sur quoi ils travaillent, bon, sur des sources principalement écrites. Et lorsqu'ils vont tomber sur ces documents-là, eh bien, ils vont tout de suite être capables de mettre de l'avant que Duplessis et le clergé, bon, ils sont copains-copains.
Oui, effectivement, ils vont rendre rendre public, donc accessible, ses témoignages de gratitude, les lettres de félicitations, de remerciements à Duplessis. Mais d'un autre côté, l'historien va aussi ignorer d'autres sources publiques. Par exemple, l'abbé Gérard Dion et l'abbé Louis O'Neill qui ont publié un livre pour condamner l'Union nationale aux élections de 1960. Et ces sources-là, curieusement, on n'en tiendra pas compte ou on va les considérer comme une exception.
Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à une rupture aussi nette qu'on veut le mettre de l'avant dans la mémoire collective, dans les relations entre l'Église et l'État à la mort de Duplessis? Ou est-ce qu'au final, c'est davantage une continuité avec Sauvé, Barrette, puis surtout, en fait, avec Le Sage?
C'est une continuité, à mon avis. La rupture entre l'Église et l'État, elle va être très progressive. Ce n'est pas l'intention de Jean Le Sage quand il arrive au pouvoir. Ce n'est pas son intention à la fin de son mandat non plus. Quand on crée le ministère de l'Éducation, qu'on repense le programme d'éducation, on ne veut pas enlever le catholicisme des écoles. On veut simplement repenser la façon dont le catholicisme fait partie du programme. Et la raison pour laquelle on sort les institutions religieuses des écoles, des hôpitaux, c'est simplement parce que les communautés religieuses n'ont plus les reins assez solides pour gérer le fardeau de la santé et de l'éducation par elles-mêmes.
Les commissions, les commissions religieuses, les commissions scolaires vont d'ailleurs rester en fait confessionnelles jusqu'à la fin des années 90, si je ne m'abuse.
Oui, effectivement, et les cours d'enseignement religieux vont rester jusqu'aux années 2000.
Et pour finir, en fait, puisque le temps file, la thèse que vous avancez est assez novatrice et s'inscrit, bon, à l'encontre de la mémoire collective, comme on l'a vu. C'est une thèse qui est basée justement sur des sources nouvelles, la correspondance des évêques, et qui donc nous permet de voir Duplessis sous un autre jour, derrière les portes closes. Comment les gens réagissent à cette thèse-là qui est assez novatrice?
Étonnamment, les gens sont très réceptifs aux idées que j'apporte, probablement parce que je me base vraiment sur des sources documentaires, mais aussi parce que je pense être assez neutre dans mon approche, c'est-à-dire que je ne viens pas condamner Duplessis l'Église, je ne viens pas non plus réhabiliter Duplessis l'Église, je viens simplement remettre certaines choses en perspective, et c'est ce qui fait, à mon avis, que les gens sont prêts à accepter des idées nouvelles.
Donc, malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposions. On invite ceux dont la curiosité aurait été piquée à se procurer l'ouvrage « L'Église et la politique québécoise de Taschereau à Duplessis » publié chez McGill Queen's University Press par Alexandre Dumas. Vous pouvez le trouver dans toute bonne librairie ou le commander chez votre librairie indépendante préférée. Pour l'heure, eh bien, on s'en va en musique, mais merci beaucoup, Alexandre Dumas.
Merci.
Et on s'en va en musique avec, un interprète qu'aimait bien Duplessis lui-même, Richard Véraud, avec Du moment qu'on aime, du compositeur liégeois André-Modeste Grétry. Cette pièce qui est interprétée ici par Richard Véraud, l'un des grands artistes lyriques du Québec du milieu du 20e siècle, Richard Véraud qui interprète cette pièce a été supporté par l'Union nationale en 1949 pour aller étudier en Europe. Et d'ailleurs, en fait, Duplessis est un grand amateur d'opéra et il a financé, en fait, de nombreux jeunes talents lyriques de la province au cours de son règne. Il a également énormément financé le théâtre. Et donc, il y aurait probablement un ouvrage également à écrire sur Duplessis la culture. Fernand Harvé a commencé à s'y attaquer dans un article, mais à mon avis, il y a plus à faire. Et donc, on se laisse sur Du moment qu'on aime, interprété par Richard Véraud. Et on vous invite peut-être, Alexandre Dumas, à poursuivre vos recherches sur Duplessis et à revenir nous voir.
Je suis